Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui n'a pas été tenté, adolescent, de faire tourner des tables lors d'une séance de spiritisme ? Qui n'a pas lu de près un horoscope en cherchant à y déceler quelques explications sur les méandres de sa vie ? Qui n'a pas croisé dans son existence des personnes ayant eu recours à une voyante afin de connaître les suites d'une peine de cœur ou l'issue d'un conflit familial ? Aussi fou que cela paraisse, en France en 2015, 15 millions de personnes auraient recours au service d'un astrologue ou d'un sorcier une fois par an. Chez les plus jeunes, la mode chez certains serait aux séries télé zombies, aux groupes de métal et parfois à la fascination pour l'univers gothique. Bref, l'occultisme aurait-il le vent en poupe ? Comment fonctionne-t-il ? Et que faire quand on a mis un plus qu'un pied dedans ? Alors pour parler occultisme ce matin avec cette question toute simple, comment ça marche ? Je reçois Claudine Riga, l'honneur aux dames, responsable du service Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires du diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Bernard de Formel, vous êtes l'ancien responsable de ce même service. Bonjour.
Bonjour.
Et le père Pierre Pradel, qui est prêtre accompagnateur de ce service, donc le service Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires du diocèse de Toulouse. Bonjour mon père.
Bonjour.
Alors au début de cette émission, je voulais faire un peu un point avec vous, un panorama, alors le plus précis possible, de façon à pas être non plus dans le fantasme ou dans la peur, sur la réalité de l'occultisme en France aujourd'hui. Alors je citais très rapidement des chiffres au début. Peut-être comment peut-on commencer par les jeunes. Je parlais du spiritisme. C'est vrai que je pense que tout à chacun dans sa scolarité a au moins entendu une fois parler du spiritisme, peut-être même parfois dans des écoles catholiques sous contrat, voire des écoles hors contrat. Ça concerne tout à chacun, et peut-être certains ont fait des expériences de spiritisme, donc ont commencé à se réunir avec des copains pour essayer de faire tourner des tables ou faire bouger les lettres du Scrabble. Alors commençons par ça, peut-être je commence par vous, Claudine Rigal. Comment va le spiritisme en France ? Est-ce que de fait c'est une pratique extrêmement minoritaire, ou est-ce que c'est une fascination encore pour le monde adolescent ?
Chez les adolescents, ça reste une fascination. Maintenant, ils sont allés bien au-delà du spiritisme et touchent maintenant à des pratiques occultistes très lourdes, de façon assez banalisée.
Alors, quand vous dites ils y touchent, est-ce que vous avez une idée des proportions ? Parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on donne l'impression que tous les jeunes sont...
Je n'ai pas dit que tous les jeunes étaient sollicités, mais simplement à travers, depuis 20 ans, les interventions que nous faisons, nous voyons bien, dans ces interventions de prévention, qu'en particulier dans les écoles catholiques, il y a toujours des remontées, des expériences qui nous sont partagées.
Alors l'autre chose, c'est qu'on peut voir, même en regardant ne serait-ce que la télé ou la chaîne du câble, le développement d'une culture gothique. Alors parfois on en croise dans la rue, ces jeunes qui sont habillés un petit peu de manière sombre. C'est pareil, est-ce que c'est une pratique minoritaire ? Est-ce que on peut considérer qu'il y a une culture gothique aujourd'hui et qui toucherait le monde adolescent de manière assez large ?
Il y a une culture gothique qui s'est largement propagée avec l'expansion d'Internet. Voilà, après vous dire des chiffres, je pense qu'aucun professionnel vraiment ne peut le faire. Mais on le voit, ne serait-ce qu'en se baladant dans Toulouse, on voit très bien certains looks. Alors le look ne signe pas obligatoirement le degré d'insertion dans ces groupes-là, mais ça signe quand même un flirt avec cette culture-là.
Alors moi je citerai des chiffres et je vous laisserai réagir peut-être Bernard de Formel. Il y a un prêtre en France qui est assez connu, qui travaille beaucoup sur ces questions, qui s'appelle le père Benoît d'Omergue, qui récemment, à la demande des évêques de France, a fait une enquête auprès de 50 000 jeunes scolarisés de la 4e à la terminale, et il ressortait que, de fait, il y avait, via les jeux vidéo, via les sites internet, une espèce de développement, justement, d'une culture ésotérique. Alors, est-ce que vous avez des éléments là-dessus, peut-être chiffrés, vous aussi, Bernard de Formel, qui vont au-delà de votre expérience personnelle ?
Là aussi, si vous voulez, la difficulté de pouvoir chiffrer, parce que les gens qui pratiquent ce genre de choses ne va pas en parler facilement. Moi, ce que je regarde, c'est le développement des sites internet, la littérature que l'on voit se développer, les émissions, parlé tout à l'heure de des vampires qui font la une de pas mal d'émissions pour des jeunes. Donc, à partir de là, on peut dire qu'il y a incontestablement une clientèle intéressée et qui cherche par des moyens ou par d'autres, à connaître l'avenir, à être en relation avec de ce qu'on appelle des entités, à se sécuriser à partir de, d'un certain nombre d'informations qu'il pourrait essayer d'avoir. Donc il y a plusieurs choses qui poussent non seulement les jeunes, mais aussi des moins jeunes, à s'adonner à ces pratiques.
Alors, Père Pierre Pradel, je me tourne vers vous parce que vous, vous avez beaucoup travaillé avec la jeunesse et toujours pour essayer quand même de, justement de préciser le propos pour qu'on ne donne pas l'impression qu'en effet tout à chacun est tenté par ça. Je cite un autre chiffre, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, donc la MIVILUD, qui est un organisme national. Qui récemment sortait des chiffres en 2008, enfin récemment, ça fait quand même 7 ans, alertant justement sur le développement d'une culture peut-être minoritaire, mais bien réelle chez les jeunes, d'une fascination cette fois, alors plus que grave, pour le satanisme, citant 25 000 personnes, dont 80% se situeraient dans une tranche d'âge de moins de 21 ans. Alors c'est un rapport qui avait donné lieu à un certain nombre de critiques, il y avait des gens qui, jusque dans le monde, qui avaient dit « Oh là là, mais ils tirent la sonnette d'alarme, enfin ils voient le mal partout ». Vous, votre expérience de terrain, c'est quoi? C'est que la plupart des jeunes sont fort sympathiques et ne sont pas tentés par ce genre de pratiques?
Il n'est pas question de voir le mal partout. Il n'est pas question de dire que le satanisme touche tous les jeunes. Mais c'est vrai qu'il arrive, même dans des milieux que je qualifierais catholiques, de rencontrer des jeunes qui touchent à cela. Alors, ils sont peu nombreux, il ne faut pas s'affoler. Mais sans s'affoler, il faut être prudent, parce que tous ces propos-là peuvent être transmis très facilement avec tout ce que nous connaissons comme moyen de communication, et un petit peu, je dirais, banalisé. Alors, il y a l'extraordinaire qui est assez rare, mais qui peut se banaliser. Et c'est là qu'il faut être prudent et vigilant.
Claudine Riel.
Par rapport à ces problèmes de satanisme, ce que moi j'ai envie de dire aux parents, aux proches, si vous voyez un jeune qui est en train de commencer à y mettre les pieds, agissez extrêmement vite, parce que la déstructuration va très vite et elle peut aboutir à des suicides conditionnés. Ça, c'est arrivé sur Toulouse, dans des familles où les jeunes étaient très entourés, des tentatives de suicide ou alors avec des décompensations psychotiques extrêmement graves. Donc agissez très très vite.
Alors sur le fait d'agir, on en reviendra. On va essayer de serrer les choses quand même un minimum. Maintenant parlons des adultes. Alors les adultes, je citais ces chiffres en introduction qui moi-même m'ont énormément surpris. Donc de 15 millions de personnes en France qui auraient recours au moins une fois par an à la voyance ou apparentée, et 4 millions de Français qui auraient régulièrement recours à ce type de pratique. Est-ce que ça vous surprend, ces chiffres? Est-ce qu'ils vous semblent fondés? Et là aussi, est-ce que c'est votre expérience dans ce service?
Alors moi, ça fait écho à ce que disait le père Vernet, le fondateur du service national pastoral et sec, le père Vernet, qui disait il y a déjà quelques années qu'il y avait plus de guérisseurs voyants en France que de médecins inscrits au Conseil de l'Ordre. Donc ça donnait déjà un ordre d'idée, et à mon avis le phénomène est allé croissant, puisque la banalisation de tout ce qui est ésotérisme et occultisme, avec 20 ans de recul, hein, d'expérience dans le service, nous voyons que ça gagne.
Mais alors Bernard de Fornel, c'est-à-dire qu'il y aurait donc autant de Français que ça qui iraient régulièrement, qui sortiraient de chez eux, qui iraient chez une voyante pour qu'elle leur prédise l'avenir? Ça paraît un peu fou à entendre.
Ça paraît un peu fou, mais quand on regarde, quand on circule dans les rues de Toulouse, qu'on regarde des plaques ou qu'on est en contact avec des publicités pour le mage untel, le marabout, la voyante et tout ça, on en récolte assez régulièrement. Ça montre bien qu'il y a un engouement d'une grande partie de la population. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui vont s'adonner de façon régulière, mais qui, à un moment donné, pour des raisons personnelles, de situation et tout ça, vont chercher à se rassurer par la connaissance ou une certaine connaissance de l'avenir qui va... Alors, le gros problème, si vous voulez, qui est attaché à cela, c'est le manque de liberté. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont souvent voir, par exemple, une voyante ou un marabout comme ça. C'est la perte de liberté, parce que ils vont être petit à petit sous l'emprise de la personne qui on ne pourra pas aller à droite ou à gauche, on ne pourra pas décider ceci ou cela sans avoir l'avis de la voyante, du marabout, etc. Et là, c'est très grave, si vous voulez.
Alors, on va faire une pause, justement, et puis après, vous allez nous expliquer exactement comment ça marche, et du coup, comment petit à petit, la liberté des personnes qui ont recours à ce type de pratique peut être aliénée, même gravement.
Je regarde sous la porte depuis mercredi soir. De voir une lettre s'y glisser, je nourris l'espoir. Avec la preuve ultime que c'est bien toi. Tes empreintes digitales légitimes faisant foi. Mon ordinateur en permanence est connecté. Sa boîte de réception consciencieusement vidée. D'un geste mécanique depuis mercredi soir. Je clique et je reclique sur envoyer recevoir. J'ai croisé les doigts, j'ai touché du bois. Pour faire le vœu de vous revoir, j'ai fait un nœud à mon mouchoir. Hantez, envoûtez-moi encore. Maraboutez-moi à mort. Je guette depuis mercredi la venue du facteur. D'un billet doux affranchi au tarif en vigueur. Il est sympa, je l'aime bien, on est devenu copains. Même si tous les matins, il baisse les yeux, toujours rien. Le soir au fond du lit, sur mon polochon placebo. J'attends que mon mobile éclaironne l'arrivée d'un texto. Quelques mots de toi sur ce petit appareil m'aideront, ça va de soi, à retrouver le sommeil. J'ai croisé les doigts, j'ai touché du bois. Pour faire le vœu de vous revoir, j'ai fait un nœud à mon mouchoir. Hantez, envoûtez-moi encore. Maraboutez-moi à mort. Au métro Barbès, on m'a proposé d'être aidé. On m'a fait la promesse du retour de l'être aimé. Le flyer mentionnait dans un style lapidaire. Elle va courir après vous comme un chien derrière son propriétaire. Comme tu vois, j'ai fait le tour et me voilà à bout. Pour avoir recours au service d'un marabout. Thème astral, ligne de la main et mare de café. Boule de cristal, patte de lapin, j'aurais tout essayé. Que tu te manifestes par quelque moyen que ce soit. Signaux de fumée, télépathie, c'est ma force et ton choix. Un signe de toi peut rallumer la flamme inerte. Me laisse pas comme ça jouer avec les amulettes. J'ai croisé les doigts, j'ai touché du bois. Pour faire le vœu de vous revoir, j'ai fait un nœud à mon mouchoir. Hantez, envoûtez-moi encore. Maraboutez-moi. Maraboutez-moi à mort.
Présence.
Emmanuel Pella.
Ce matin, nous parlons d'occultisme, donc avec cette question toute simple, comment ça marche? Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, avec Claudine Rigal, qui est responsable du service Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires du diocèse de Toulouse, Bernard de Fornel, qui est l'ancien responsable de ce même service, et le père Pierre Pradel, qui est prêtre accompagnateur de ce service Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires du diocèse de Toulouse, des services qui existent d'ailleurs dans chaque diocèse, non, mon père, ou à peu près?
Qui devraient exister dans chaque diocèse, mais d'accord. Qui ont... pas partout la même importance.
D'accord. Alors, dans cette deuxième partie, je voulais voir avec vous, essayer de comprendre comment ça marche. Moi, qui ne suis pas du tout un spécialiste, vous qui connaissez ça très bien, ce qui m'a toujours impressionné, c'est que l'Église arrive à avoir un discours en raison sur la manière dont comment dire, sur le processus en fait, d'aliénation de la liberté, comme vous disiez, Bernard de Fornel, dans ce genre de pratique. Alors, commençons peut-être par le spiritisme. Sans vouloir faire de la curiosité malsaine, c'est-à-dire qu'en fait, le spiritisme, c'est quoi? On se met autour d'une table, à plusieurs jeunes, on sort les lettres de Scrabble et on commence à invoquer des esprits en espérant qu'ils vont intervenir et qu'ils vont faire bouger les lettres, c'est ça?
Oui, c'est une des méthodes, mais il y a beaucoup d'autres manières de procéder. Hein. Il ne faut pas s'arrêter seulement à faire tourner les tables ou les verres. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à évoquer et invoquer les défunts. En général, ça part du désir de connaître ce que pense le grand-père qui a disparu il y a un certain temps, lui demander conseil, des choses comme ça. Alors, effectivement, l'Église a un discours, et à partir de la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, les pères de l'Église, bon, il y a eu un discours qui a été extrêmement fidèle, cohérent, si vous voulez, hein, qui a toujours condamné absolument ce genre de pratique. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les défunts avec lesquels on va être en contact. Ce sont, alors, les mots, c'est des entités. Les entités, alors, c'est tout ce qui fait partie d'un monde invisible dans lequel vous avez les anges, les bons et les mauvais, où vous avez... Alors, selon les religions païennes, les elfes, les fées, etc. Donc, un certain nombre de... Et qui vont, en général, répondre, puisque nous, ce que nous croyons au niveau de l'Église, c'est que Dieu ne permet pas aux défunts de se mettre, sauf, de manière exceptionnelle, aux défunts, même aux saints, d'être en contact de façon régulière avec les vivants. Donc, on fait appel, en fait, à des esprits qu'on ne connaît pas.
Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est-à-dire que, il faut quand même dire que ça marche. Donc, ça prouve que c'est une réalité, ce monde des esprits.
C'est une réalité, ça, on ne peut pas le nier.
Donc, c'est-à-dire qu'on invoque des esprits, des morts, et puis les lettres du Scrabble bougent, et puis on peut rentrer en contact avec soi-disant des défunts, c'est ça ?
Soi-disant des défunts, mais qui sont, en fait, on peut dire, en tout, des démons. Et qui ont un certain pouvoir de faire bouger des tables, de donner des réponses. Le problème, c'est qu'il faut regarder les fruits spirituels. Et les fruits spirituels, dans cette pratique, c'est l'aliénation, les dégâts psychologiques et des dégâts au niveau spirituel.
Est-ce que vous pouvez me citer des exemples de jeunes que vous avez croisés dans vos stages de prévention, mais dans vos interventions dans les collèges, lycées, ou des jeunes qui seraient venus à vous dans ce service ou par le bouche à oreille et qui auraient fait ces séances de spiritisme et qui auraient été confrontés en fait à la réalité de l'horreur de ces pratiques.
Quelques-uns qui osent parler, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils ont eu très peur. C'est-à-dire qu'ils y sont allés souvent en rigolant, hein, parce que le copain avait invité, parce que c'est fun, et puis ou parce qu'ils se disaient « mais c'est pas vrai, ça n'existe pas ». Et puis, quand ils ont vu que ça répondait, et quand ils ont vu ensuite les angoisses qu'ils manifestaient, en particulier la nuit, ou certaines manifestations qui leur arrivaient personnellement, là, c'est vrai que la donne changeait.
Hein? Père Pierre Pardel ?
Pour moi, il y a... Surtout les jeunes que je reçois et qui ont été troublés par cela. Hein, troublés, démolis, hein, et qui ont besoin de se reconstruire. Alors, faire intervenir les défunts comme cela, c'est pas cela. Hein. Et si on regarde, pour moi, ce qui est important, c'est la communion des saints. C'est-à-dire que ceux qui nous ont précédés, sont dans l'Église du ciel et dans leur intervention, ils interviennent dans la prière et dans la communion avec notre Dieu. Mais ils n'interviennent pas chez nous pour nous dire ceci ou cela.
Quand vous dites que vous recevez des jeunes, c'est-à-dire qu'en fait, vous aviez quoi, des adolescents qui venaient vous voir, qui disaient « Mon père, voilà, moi j'ai fait ça, voilà ce qui s'est passé ». Et j'ai eu peur ou j'ai été troublé ou est-ce que vous pouvez nous donner un exemple
pas tout
concret
à fait comme cela.
Qui vous reviendrait en tête?
Je rencontre des jeunes et qui se posent des questions, mais ils ne vous disent pas tout de suite qu'ils ont touché au spiritisme. C'est dans leur mal-être, dans leur difficulté, que petit à petit, en les interrogeant, vous leur dites mais des fois tu as pas fait un peu ceci, cela. Ah oui, mais comment tu le sais, Pierre? Et ils sont ensuite marqués, mais il n'y a pas de, choses particulières, mais de grosses difficultés. Ils ont, je dirais, comme des liens, si vous voulez, et qui les empêchent de vivre en pleine liberté. Ils sont retenus par ce qu'ils ont vécu.
Bernard de Fornel.
Oui, j'ai exemple récemment là d'une personne que j'ai rencontrée qui est venue me parler qu'elle était entourée d'esprits, qu'elle était harcelée, vraiment quelque chose de profond qui l'a perturbée énormément. Et là aussi, j'ai dû lui demander, mais est-ce qu'il n'y a pas eu toi ou dans ta famille proche des pratiques et tout ça? Et elle m'a confirmé qu'il y avait eu des pratiques de spiritisme, de magie, et qui ont provoqué chez elle des dégâts psychologiques, parce qu'elle était vraiment très très perturbée, et une grosse difficulté à exprimer que Jésus est Seigneur au niveau de la prière, au niveau... Donc on voit bien que là, à travers ces exemples, il y a des problèmes, des conséquences graves. Et j'ai deux petits exemples, si vous voulez, de personnes qui ont assisté à des séances de spiritisme, mais je dirais en étant un peu à l'extérieur, ne voulant pas se mettre dans le cercle de ceux qui invoquaient.
Des adolescents, en l'occurrence?
Non, c'était des adultes.
Adultes.
Et ces adultes, ils priaient. Eh bien, rien n'a pu se passer. Au point que ceux qui faisaient ça, ils disaient, allez-vous-en, parce que vous empêchez le... Donc on voit bien qu'il y a, c'est pas seulement un jeu, on voit bien qu'il y a une conséquence au niveau spirituel qui est importante.
Claudine concernant Miguel. Le spiritisme, là, au niveau des adultes, à la fin du 19e siècle, il y a eu vraiment une déferlante de spiritisme qui venait des États-Unis, en particulier qui a gagné l'Allemagne, l'Angleterre, l'Europe. Et il y avait une étude qui avait été faite dans un hôpital psychiatrique allemand qui ont montré qu'il y avait 2/3 des patients qui étaient hospitalisés qui avaient touché à ces pratiques-là.
L'acte de spiritisme qui concernait aussi tous les, y compris un certain nombre de salons littéraires.
Salons littéraires, c'était très tendance. Alors, je veux dire, on sait très bien que Victor Hugo, par exemple, s'y est livré. Je veux dire, beaucoup de grands intellectuels ou en particulier de grands écrivains, c'était très très mode à ce moment-là.
Hein? Alors, sans tomber dans la fascination pour le mal, hein, parce que c'est absolument pas le propos de cette émission, mais c'est pour essayer de comprendre. Parlons maintenant de la divination. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que j'ai envie d'aller plus loin un jour que la consultation de mon horoscope. Un copain me parle d'une femme qui lui a lu dans la main ou lu dans les cartes et ça l'a aidé à faire face, je sais pas, à un échec amoureux, comme je disais en introduction, ou à essayer de dépasser un deuil. Donc, on toque à la porte. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est une bohémienne avec Kirill Kili dans sa boule de cristal et qui vous dit « Vous inquiétez pas, vous avez rencontré une belle femme dans 10 ans ». Enfin, j'en rigole, mais c'est pour essayer de comprendre. Tout le monde n'y va pas, heureusement, mais comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui arrivent à lire l'avenir et à vous prédire l'avenir?
Alors effectivement, on peut pas nier la réalité. Il y a effectivement des personnes qui sont allées, qui ont fait des démarches, j'en ai eu des témoignages, qui ont fait des démarches auprès de voyants. Alors, ce n'est pas seulement un boule de cristal. Bon, il y a les cartes, il y a différentes techniques, plus ou moins modernes.
La boule de cristal, c'est une image en général.
Oui, c'est une image. Et qui ont. La personne leur a dit, leur a raconté leur passé et leur avenir. Et il s'est trouvé que les choses étaient justes. Et là, la question, c'est qui va donner ces informations à la personne,
à la voyante. Ou au voyant.
Au voyant.
Au marabout.
Donc, là aussi, ce sont des entités, des esprits. Ces voyants, la plupart du temps, ont fait un pacte avec l'ennemi pour avoir des pouvoirs de voyance, de divination, et peuvent ainsi lire dans le passé de la personne et prédire un avenir qui va se réaliser. Alors, pourquoi il se réalise? Il y a aussi les qualités de la personne, de la voyante, qui est capable de voir comment cette personne vit, réagit, etc. Et donc, de faire de l'autosuggestion. Et donc la personne va être là aussi, vous voyez la liberté, la personne va suivre ce que la voyante va lui dire. Et ça va se réaliser, et plus ça va se réaliser, plus elle va croire, et plus elle va se sentir liée par, elle va être liée par ce qu'a dit la voyante.
Mais donc, voyant. Quand on lit, c'est ce que je disais en préparation cette émission, en préparant pardon, cette émission, que 4 millions de Français ont régulièrement recours à l'office de ce type de voyant. C'est-à-dire que c'est des gens en fait qui vivent en allant régulièrement voir une voyante et qui deviennent en fait addicts à la voyance, c'est ça?
Eh bien, c'est le risque, si vous voulez, c'est le risque de ces pratiques. C'est quand on a mis le doigt et qu'on a vu que ça marchait, eh bien d'y aller et de devenir de plus en plus esclave, en quelque sorte, de la personne que vous allez voir. Et donc la liberté des enfants de Dieu, elle est abolie.
Claudine Rigal.
Ce que l'on constate souvent, c'est que la voyante ou le voyant, va dire des choses vraies sur le passé. Alors ça va crédibiliser donc ce qu'il va dire ensuite sur le futur. On va supposer que ça va être vrai, que les choses au début se passent bien et qu'assez rapidement, c'est assez classique, elle va voir quelque chose de négatif ou en matière de santé, de proche, de rupture, ce qui va distiller la peur dans le cœur de celui qui consulte. Et la voyante va proposer soit elle-même de faire certaines pratiques pour délivrer, pour libérer, soit va orienter le consultant vers un mage qui lui va enfoncer la personne en plus encore dans l'occultisme, qui va proposer de faux exorcismes par exemple, voilà.
Père Pierre Pradel, plusieurs questions me viennent évidemment quand on parle de ça, c'est qu'on se dit aussi que peut-être certaines personnes au début sont pas mal intentionnées, par exemple j'ai perdu un proche, j'ai pas la foi, je suis pas croyant, j'ai pas de religion, et puis j'ai entendu parler d'une pratique qui peut me permettre d'entrer en relation avec un défunt, et du coup de voir qu'il y a un au-delà de la mort, et quelque part y trouver une forme d'espérance. On imagine aussi pour la voyance, face à des difficultés personnelles, on a envie en fait de se rassurer, on a envie de trouver des sécurités. Est-ce qu'il n'y a pas au départ quelque chose de compréhensible, de légitime dans toutes ces démarches?
Les consultants ne sont pas du tout, je dirais au début, désireux de faire de mal. Ils sont à la recherche, peut-être d'abord à la recherche d'être écoutés et de chercher des réponses aux souffrances qu'ils connaissent. Pour moi, il n'est pas question de porter un quelconque jugement sur ces personnes qui vont consulter, ni même de leur faire peur. Mais il est peut-être question de leur proposer quelque chose, de savoir, nous, dans l'Église, les écouter, les recevoir, hein, et ne pas répondre par...
Ne pas faire comme si ça n'existait pas.
Oui, leurs souffrances, ils les ont. Et leur désir, il est vrai. Et c'est ce désir qu'il faut accueillir et accompagner en Jésus et non pas le laisser aller à n'importe où et à n'importe qui.
Alors vous dites accompagner en Jésus, mais peut-être je me fais l'écho de ce qu'un certain nombre de personnes peuvent penser, c'est que ces pratiques, elles marchent. Donc il y a quelque chose en fait d'immédiat, de sensible, alors que on croise rarement des croyants quand on va à l'église ou autre qui disent ah oui j'ai eu la certitude que mon grand-père ou ma grand-mère qui était morte elle est dans une vie éternelle de joie comme l'église me le dit. Ce qui est troublant, c'est qu'on a l'impression que du côté de ces pratiques on voit que ça marche, et du côté de la foi, on peut parfois avoir l'impression qu'il n'y a rien de palpable ou concret. Alors qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous répondriez à ça?
Vous parlez de décès. Chaque fois que je célèbre des obsèques, j'essaye d'apporter une espérance pour ces personnes. Et c'est pour moi, je dirais, une joie quand quelqu'un à la sortie d'obsèques me dit « Ah, qu'est-ce que vous nous avez apporté la paix ?» C'est peut-être cela que les gens vont chercher. C'est peut-être là où nous avons à véritablement soigner notre écoute et notre accueil. Et tenez, cette semaine, il y a eu au Christ 3 une rencontre de tous ceux qui accueillent pour les funérailles, mais ils font un travail extraordinaire. Et il y a une réponse à ces questions, parce que la question de la mort, elle est de première importance. Et on a une réponse, nous, chrétiens, à amener. Et si on n'arrive pas à la porter, ou si les gens ne viennent pas la chercher, mais ils vont s'orienter vers autre chose, oui.
Claudine Régal.
Moi, je crois qu'à travers ce que dit Pierre, c'est aussi une exhortation, et on est dans cette année de la miséricorde, à essayer d'être rayonnant de notre foi, à oser témoigner. Oser, ça ne veut pas dire faire du prosélytisme et du matraquage. Mais il y a des moments on peut dire, ben oui, moi, là, à la mort de mon père, voilà ce qui s'est passé. Voilà la paix que le Seigneur m'a donnée. Et puis, à accueillir les gens tels qu'ils sont, sans vouloir les faire rentrer dans des cases. À les accueillir avec bienveillance.
Alors, dans le panel de ces pratiques, et puis après, on passera à autre chose, enfin, on fera une pause, et puis après, vous nous expliquerez votre pratique à vous dans ce service, c'est-à-dire comment vous faites pour accueillir ces gens et les aider à s'en sortir. Vous vouliez aborder la sorcellerie, en disant qu'en fait, on peut avoir l'impression que c'est une pratique extrêmement marginale, mais que de fait, aujourd'hui, c'est une pratique qui se répand. Alors, vous en avez dit un mot en introduction, là, c'est pareil, comment ça marche? C'est quoi la sorcellerie? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, on ne peut pas dissocier magie-sorcellerie. Hein. Donc, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une explosion des pratiques de magie et de sorcellerie, auprès des jeunes en particulier. Ce n'est pas simplement le constat de nous à Toulouse, c'est un constat général. Alors, déjà, peut-être savoir dire qu'est-ce que c'est la magie? La magie, selon le dictionnaire, c'est l'art de produire par des procédés occultes, c'est-à-dire cachés, des phénomènes inexplicables ou qui semblent l'être. Bon, on se dit, ouais, bon, bof, à part ça... Elle repose sur quoi, la magie? Elle repose sur le fait de croire qu'il existe des forces, après elles se déclinent de différentes façons, supérieures, cachées, qui ne sont pas du domaine du sensible, immédiat. Que ces forces-là, le mage peut se mettre en relation avec elles. Mais non seulement se mettre en relation, le mage peut les maîtriser à travers des rituels. Et cela, ces rituels sont de différents types. Donc vous voyez qu'à travers là, ça, il y a une toute puissance qui se dégage. C'est-à-dire qu'il n'y a nulle force supérieure à la magie, ce qui va tout à fait en contradiction avec nous, notre foi chrétienne. Alors, il y a des magies par imitation, c'est-à-dire le semblable produit le semblable. C'est-à-dire qu'on pique une aiguille dans le corps d'une poupée qu'on a façonnée et qui est censée blesser la personne représentée par cette image. Il y a une magie de contagion par contact physique, pour transmettre quelque chose de bénéfique. Et là, on aborde le domaine de tout ce qui peut être guérison.
Alors, on s'est dit que ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Oui. Donc.
Et puis, il peut y avoir une magie par incantation, où là, ce sont des formules que l'on va énoncer. Et vous avez, en particulier en magie par incantation, des petits magazines qu'on trouve en kiosque, dans les librairies, où on vous dit, si vous voulez obtenir la division de telle personne, vous invoquez tel démon. Si vous voulez devenir le supérieur, le grand Manitou, vous invoquez tel autre esprit. Si vous voulez créer la haine, vous invoquez ceci. C'est accessible, ça, sur Internet et en kiosque.
C'est accessible, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, dans une ville comme Toulouse, il y a quoi? Il y a 2-3 mages et quelques personnes qui viennent les voir de temps en temps? Enfin, concrètement, puisque à chaque fois c'est la grande expression.
Toulouse, vous avez toute une série de mages, marabouts, sorciers, et puis vous avez surtout des moyens accessibles pour vous-même de pouvoir pratiquer. Et puis sur Internet, les jeunes, alors là, ils savent vous trouver, hein.
Bernard de Fornel, toutes ces pratiques, si j'ai bien compris, je vais résumer et puis après je vous laisserai réagir. À chaque fois, en fait, on se met en relation en fait avec le monde surnaturel, ou une personne se met en relation avec le monde surnaturel. Alors certains appellent ça donc le monde prétanaturel, ou peut-être vous pourrez nous dire quelle est la distinction. Bon, en tout cas, avec un monde de l'au-delà, dans lequel il y a donc des entités, des anges, des démons. Souvent, en fait, ces entités se présentent comme des anges de lumière, si je ne me trompe pas. Et puis la personne en fait qui a recours, qui rentre en relation avec ces entités, et ben petit à petit, elle acquiert des pouvoirs, mais elle aliène sa liberté et par conséquent celle des gens qui viennent. Ça paraît difficile à imaginer.
Oui, alors au niveau préternaturel, c'est plutôt, on parle des dons préternaturels. Hein. Bon, je vais peut-être pas rentrer, mais là on est dans le domaine surnaturel, effectivement, de ce monde invisible, dans lequel il y a un certain nombre d'esprits. Alors, quelquefois, le surnaturel, on le ramène seulement à l'action de Dieu. Bon, ça dépend des auteurs. Hein. Mais en tout cas, c'est tout à fait ça. C'est cette dépendance, petit à petit, qui est imposée par des pratiques, par des rituels, et qui sont présentés de façon banale. Je vais donner un exemple d'un jeune que j'avais accueilli, qui était très attiré par Vika.
Vika, qu'est-ce que c'est ?
Vika, c'est, il se présente comme une religion païenne. Alors, avec une vitrine sur la nature, l'écologie.
Ici à Toulouse ou...
Ah, mais sur Internet, partout.
D'accord.
Vous pouvez, là, c'était à partir d'Internet. Donc, attirance. Mais, quand vous balayez le site, vous arrivez au sorcier, vous arrivez à la grande déesse nature, le grand dieu, etc. Alors, et le jeune que j'avais accueilli, il avait surtout été attiré par l'aspect écologique. Et en définitive, il était en train de s'enfoncer petit à petit dans l'attirance pour la sorcellerie, pour la magie, et bon, était amené à l'aider à en sortir. Voilà. Donc on voit bien que il y a une banalisation encore de ces pratiques-là qui font que les personnes sont... par curiosité, par recherche de sécurité, pour différentes, ce qu'on a dit précédemment, vont essayer d'aller, de voir, de la curiosité. Voyez. Et donc, il y a un véritable danger.
Alors, on va écouter un morceau de musique pour faire une pause. Et puis, après, vous nous expliquerez, vous, quel est votre, dans ces cas-là, comment vous accueillez ces personnes et comment, quand on a mis, comme je le disais en introduction, un pied dedans ou plus, comment on peut faire pour en sortir.
Tes petites filles dans cet écran, c'est la bouillie pour les débiles, c'est que du vent. Fais du tricot, prends un bouquin, va au cinoche. Pour s'évader, il y a d'autres moyens et des moins moches que la téloche. Qu'est-ce que tu fais, plante tes petites filles dans cet écran? Ça fait du bruit et puis ça brille, c'est excitant. T'en as pas marre de ces crétins, ces têtes de gland, qui vident par leur discours malsain tout ce qu'il y a de grand dans ta caboche. Qu'est-ce que tu fais, plante tes petites filles devant cet écran? C'est pas les idées qui fourmillent, c'est le néant. Le monde est beau, y'a des gens bien, tu l'aimes tellement. Mais il devient bête et méchant, et plus que moche, à la téloche. Qu'est-ce que tu fais, plante tes petites filles dans cet écran? Ces animateurs imbéciles, tu les entends. C'est du dérisoire, du futile, du répugnant. Nous prennent pour des cons, pour des cibles, pour des clients. Nous font les poches. Va voir le monde à l'extérieur, voir sa beauté. Tu trouveras bien plus de bonheur que dans cette télé. Je te confie, si tu le veux, mon manche de pioche, pour exploser l'écran merdeux de cette éloche, de cette éloche.
Radio Présence, Argelès-Gazost, 91.9. Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, nous parlons d'occultisme, comment ça marche. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, que nous sommes avec Claudine Rigal, responsable du service Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires du diocèse de Toulouse, Bernard de Fornel, qui a dirigé ce service pendant longtemps, et le père Pierre Pradel, qui accompagne ce service. Dans cette troisième partie d'émission, je voulais avec vous que vous nous racontiez maintenant votre expérience dans ce service. Les gens qui sont pris dans le spiritisme, la voyance, la magie, la sorcellerie, on imagine que quand ils sont pris dedans et que ça va mal ou très mal, ils savent pas trop vers qui se tourner. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent sur internet église catholique, sorcellerie, et puis ils finissent par appeler le diocèse et puis ils tombent sur vous. Déjà, comment les gens arrivent chez vous? Claudine Rigel.
Il y a différents types d'accès, hein, c'est-à-dire que souvent il y a le bouche à oreille. Voilà, certaines personnes appellent l'archevêché et on les oriente vers nous. Et puis il y a quelquefois quelques personnes qui arrivent par hasard, qui viennent à la maison diocésaine. Est-ce que je peux rencontrer un prêtre, Pierre? Oui. Voilà. Ou alors des rencontres de prêtres sur le terrain, par exemple.
Que vous faites lors de vos interventions de prévention.
Il y a des interventions de prévention et puis aussi dans ta pratique de prêtre. Pierre, toi, tu reçois beaucoup, tu écoutes bien, donc les gens te parlent.
Pierre Pradel, comment tout d'un coup les gens se confient à vous? Alors vous nous avez dit un mot tout à l'heure, hein, mais...
Je crois que c'est l'écoute des gens, être attentif à ce qu'ils vivent, et puis eh bien, savoir leur dire qu'on est là, qu'on peut les écouter. Hier, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné d'un peu plus loin que Toulouse, même bien plus loin, et qui me disait, je vous ai rencontré il y a un mois à la maison diocésaine, et puis là, j'ai une question à vous poser. La question, ça a été une heure et demie d'écoute au téléphone. Et elle m'a dit, mais je vais venir à Toulouse, il faudrait que je vous rencontre. Voilà. Pour moi, le mot important, c'est écouter. Écouter les personnes. Et puis après, eh bien, les aider à voir qu'est-ce qu'il y a.
Bernard de Fournel.
Oui, moi j'ai une expérience d'accompagnement spirituel depuis de très nombreuses années, dans des retraites et d'accompagnement dans la vie. Et j'ai eu un certain nombre d'exemples, si vous voulez, de situations qui nécessitent, pour être discernées, d'être, disons, sensibilisées à la question, ne pas voir le mal partout, encore une fois, bien entendu, d'écouter et de voir que il y a à la fois des problèmes psychologiques, mais qui peuvent être les conséquences des problèmes spirituels, disons, des pratiques, ou bien des situations qui sont à accueillir, à écouter et à orienter.
Alors justement, c'était ma question. Quand vous recevez quelqu'un, comment vous faites la part? Quels sont vos critères de discernement pour se dire, bon, cette personne, elle est surtout fatiguée, il faut qu'elle aille voir un médecin généraliste et qu'elle aille voir un thérapeute, ou alors, de fait, il y a quelque chose de l'ordre, comment dire, d'une emprise spirituelle?
Alors,
est-ce que vous avez des critères simples?
Oui, critère, c'est voir où en est sa vie spirituelle.
C'est-à-dire...
Vous avez des gens qui ont des problèmes psychologiques et qui ont une vie spirituelle tout à fait importante et riche et tout ça. Alors que vous avez des personnes qui avaient une vie spirituelle développée au niveau de la prière, des sacrements, etc. Et qui, à un moment donné, se sont retrouvées en désolation importante, désolation spirituelle importante, dans l'incapacité de prier, ou beaucoup de difficultés pour s'approcher des sacrements, etc. Et là, vous voyez bien qu'on n'est plus dans l'ordre psychologique seulement, même si la personne est perturbée au niveau psychologique. C'est-à-dire que vous avez en général ces pratiques vont à la fois atteindre, ce qu'on disait tout à l'heure, la psychologie de la personne et la dimension spirituelle. Et donc, il n'est pas question de se transformer en thérapeute, mais par contre, prendre en compte la dimension spirituelle. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est que dans un certain nombre de lieux d'église, on a tendance à tout mettre au niveau psychologique. Et là, on a des retours quelquefois de certains psychiatres ou psychologues qui disent « Mais moi, je ne peux pas, là, dans ce domaine. » Je vois bien, il y a des gens honnêtes qui connaissent le problème et qui disent « Non, là, il y a vraiment à intervenir au niveau spirituel. » À accompagner la personne, à prier avec elle, à l'aider à sortir de ses pratiques et de demander la guérison de toutes ces blessures qui sont faites par les pratiques et surtout quand ce sont des gens qui ont pratiqué, pas seulement qui sont allés voir.
Il y a un certain nombre de personnes qui arrivent avec des choses bien précises dans ce qu'elles racontent. C'est-à-dire qu'elles viennent parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont un certain nombre de manifestations, une sensation de présence, voilà, un certain nombre de choses qui les troublent beaucoup. Et c'est important dans l'accueil, d'abord d'entendre ce qu'elles disent sans juger, et puis ensuite de voir si dans leur histoire personnelle et aussi dans l'histoire de leurs proches, il y a des pratiques de type occulte. Et lorsqu'il y a la convergence des deux, et qu'il y a aussi une synchronicité, si vous voulez, enfin, ou un effet légèrement retard dans quelques, par rapport à ces pratiques-là, bon, on peut supposer qu'il y a une relation. Et dans ces cas-là, on encourage la personne. D'abord, le fait qu'elle se sente entendue et crue, c'est très important.
Mais dans voilà. ces cas-là, c'est-à-dire, après voilà, vous avez reçu comme là, un médecin, et après, diagnostic,
qu'est-ce qu'on propose ?
C'est quoi la posologie pour...
Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Ben, la personne, elle vient, elle sait que nous sommes chrétiens, nous lui proposons de s'enraciner plus dans la foi, à travers la prière, à travers les sacrements. Je veux dire, c'est d'abord les premières choses. Voilà. Il peut arriver qu'ensuite, on oriente vers des groupes, un groupe en particulier, une église qui est vraiment, je veux dire, reconnue et pour lequel il y a des gens qui intercèdent pour la libération ou la guérison de cette personne. Voilà. Il existe aussi, dans certains cas, des choses qui relèvent du service de l'exorciste. Mais d'abord, je veux dire, encourager la personne à cultiver ou à mieux découvrir sa relation à Dieu qui l'aime personnellement.
Est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple récent, sans citer le nom, évidemment, une expérience personnelle dans ce service où vous avez accueilli une personne, et puis voilà, diagnostic et posologie, c'est...
Oui, quelqu'un qu'on a accueilli là récemment avec Bernard, qui était en chemin spirituel, mais qui avait dans son histoire familiale des choses terribles, terribles. Enfin, je veux dire, la convergence de pratiques satanistes dans sa propre famille, ensuite des gens qui autour d'elle pratiquaient le maraboutage, et avec des conséquences lourdissimes sur elle, mais aussi ses enfants.
Et dans ces cas-là, donc,
alors, et c'était une femme qui était chrétienne et on l'a encouragée plus, on l'a accueillie, après on a passé le relais concernant un de ses enfants qui était hors du diocèse à un service spécialisé, hein, voilà. Et puis ensuite on l'a encouragée à se faire accueillir dans une structure qui s'appelle le Puy de Jacob, hein, puis Bernard, où là il y a toute une équipe de priants et d'écoutants et où l'intercession dans la prière d'intercession est possible.
Bernard de Fornel.
Oui, je crois que là, il y a toute une démarche d'accompagnement, d'écoute, comme disait Pierre, qui est très importante, et de prier pour la personne.
Ouais.
C'est-à-dire, en particulier, de pouvoir l'aider à renoncer. À renoncer à tout ce qu'elle a pu faire.
Parce que
il n'y a pas de jugement encore.
Je me permets de préciser qu'en fait, il n'y a pas de guérison si la personne à un moment ne recouvre pas sa liberté personnelle et si elle pas personnellement, elle ne renonce pas à ses pratiques.
Voilà.
C'est très important de
préciser. Et de pouvoir reconnaître que Jésus est le seul Seigneur.
C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de renoncer, il faut choisir un...
Voilà. Et que les seigneurs qu'elle a pu servir à travers ses pratiques, ils sont vaincus par Jésus. Voyez. Et là, je discutais longuement avec une personne là, jeudi dernier pour lui dire, est-ce que tu crois que Jésus est vainqueur par sa mort et sa résurrection ?
Mais alors, juste, excusez-moi, je pose une autre question, c'est que on imagine parmi tous ces gens là qui font qu'on recourt à des voyants, que évidemment ils ont pas forcément ou la plupart du temps pas de culture chrétienne. Alors comment, alors que parfois on est pris justement dans les méandres et dans les conséquences de toutes ces cultures ésotériques, comment tout d'un coup on peut arriver à sortir du marécage et à reconnaître Jésus comme son sauveur? C'est pas très loin pour eux ou difficile en fait de faire ce pas?
Ça peut être long et difficile, mais la plupart des gens qui s'adressent à nous sont des personnes qui ont quand même une culture chrétienne, qui sont plus pratiquants, qui sont plus ou moins croyants, qui sont là dans une nébuleuse souvent. Mais il y a, si elles ont fait la démarche pour nous demander de l'aide, c'est qu'elles croyaient a priori que l'Église, puisque nous sommes dans l'Église, pouvait les aider dans Et alors, petit à petit, alors ça peut prendre des mois, des années, ça peut se faire plus rapidement, ça dépend des personnes, les amener justement à renoncer à cela. Il n'est pas question de jugement, encore une fois, hein, je précise bien, et à vraiment mettre sa confiance totale dans le Christ.
Pierre Pradel, c'est un long chemin en général, enfin, et dont la seule issue est justement de reconnaître Jésus comme son sauveur.
C'est un long chemin. C'est toujours la foi, c'est toujours un long chemin. Découvrir Jésus, ça se fait en prenant du temps, parce que quand on veut connaître quelqu'un, eh bien, il faut du temps. Alors oui, c'est un long chemin et qui va entraîner toute la personne. C'est pas uniquement une question de spirituel. On est à la fois un être spirituel et on a un physique et un psychique et tout est lié. Et c'est toute la personne qui va cheminer avec Jésus et vers Jésus.
Alors Claudine Rigal, peut-être pour finir, il nous reste 2 minutes. Moi j'avais une dernière question, peut-être pour finir sur une note positive. C'est qu'on imagine peut-être que ces personnes qui ont connu justement la... Alors l'expression est très malheureuse, mais le côté obscur en fait de la vie spirituelle, j'allais dire le côté obscur de la force, mais bon, le côté obscur de la vie spirituelle, le jour où elle rencontre le Seigneur, ça en fait des gens probablement qui vivent une illumination ou une transformation de leur vie qui fait que leur vie est transformée, rayonnante. Est-ce que c'est aussi votre expérience en positif?
On rencontre des personnes qui vraiment expérimentent la puissance d'amour de Jésus et son pouvoir, il est libérateur, il est notre libérateur. Et donc c'est vrai que certaines, c'est un changement de vie. Alors il y a des changements de vie qui se font de façon extrêmement concentrée et puis pour d'autres qui prennent plus de temps. Et pour revenir un peu à la question que vous avez posée à Pierre, quand les gens ne sont pas enracinés dans le Seigneur et ont du mal à entendre cette proposition de chemin de foi, c'est les aider à poser des actes de vie et de liberté. Tel jeune, là, je ne peux pas me séparer de ma littérature Wicca. Est-ce que, par exemple, tu peux, peut-être au lieu de lire ça tous les jours, est-ce que tu pourrais accepter, essayer de ne les lire qu'un jour sur deux? Puis, progressivement, au bout de plusieurs mois, est-ce que cette bibliothèque-là, mais je ne peux pas les jeter ou je ne peux pas les donner. Tu ne pourrais pas la mettre dans une autre pièce que ta chambre. Voilà. Aller moins souvent sur les sites internet. Je veux dire, c'est des petites choses, mais qui sont des actes de liberté. Et je crois que c'est important de faire grandir la vraie liberté, pas la licence, la liberté chez les gens. On peut, des fois, certains, on ne peut pas leur parler de Dieu immédiatement.
Alors, l'émission touche à son terme. Si on devait donner une adresse ou un site internet pour les gens qui voudraient aller plus loin dans cette discussion avec vous, ou qui voudraient adresser des personnes de leur entourage, vers qui ou à qui faut-il les adresser?
Alors, pour des gens qui veulent... Alors, sur Toulouse, nous avons notre service pastoral et secte, donc...
Donc, ils appellent le diocèse et
ils appellent... ou sur le site du diocèse, il y a nos coordonnées, voilà. Et puis, ceux qui veulent peut-être un petit peu s'informer, il y a en particulier le site Charismata, qui est un site spécialisé qui est tenu par un prêtre qui est exorciste dans son diocèse.
Charismata, vous écrivez ça?
C-H-A-R-I-S-M-A-T-A, M-A-T-A. Il y a le site PNC, grand P, grand N, grand C, DS 72 aussi, où il y a des choses intéressantes, où là il y a des éléments de discernement et où on n'est pas dans l'extraordinaire, on a des éléments de discernement.
Charismata et donc le diocèse
PN, voilà, et PNCDS 72 qui est un site tréfonné, puis ensuite notre service. Hein.
Merci beaucoup, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet radioprésence.com. Merci, quant à moi je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.